Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos tous ensemble. Ce soir à la une, le vaccin qui bouscule toujours l'actualité. RTL Soir ira en Guadeloupe où un gendarme a été blessé par balle. On vous expliquera tout aussi sur les zones d'ombre du pass vaccinal pour les ados, pour les premières injections, comment obtenir le précieux sésame. Et puis nous nous rendrons en Autriche, écoutez bien, loterie nationale pour les vacciner, une chance sur 10 de gagner. Ça, c'est de l'incitation. Les autres titres de l'actualité à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Il entraînait toute la famille. Terrible témoignage ce soir sur RTL de l'entraîneur de handball de Noé. Il coache aussi ses frères qui risquent de réaliser seulement ce soir son décès, mercredi soir, dans un accident de voiture dans le Jura. Dans ce journal aussi, la condamnation de Claude Guéant à 8 mois de prison ferme dans l'affaire des sondages de l'Elysée, l'impasse dans les discussions russo-américaines autour de l'Ukraine et la jolie deuxième place d'un Français sur la prestigieuse descente de Kitzbühel en Autriche. Les courses dans le Quintet Plus à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 3, le 16, le 15, le 6 et le 4.
Dans un quart d'heure, nos invités de 18h15 seront Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling. Les deux acteurs signent avec une centaine d'artistes une tribune pour appeler à l'union des candidats de gauche et à la primaire populaire. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de la réconciliation, mise en scène, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. 18h40, comme chaque vendredi, on va refaire nos régions. 20 minutes positives, curieuses, près de chez vous, avec ce soir une restauratrice alsacienne très créative face à la pénurie de main-d'œuvre. Des moines qui dérangent, oui, oui, en Haute-Vienne, et puis un riche couscous à Marseille. 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud et sa troupe de journalistes étrangers. Bonsoir, Amandine.
Bonsoir à tous.
Quel sera le programme?
On va parler gastronomie et politique. Visiblement impossible de faire campagne en France sans parler de bonne bouffe.
C'est sûr.
Et puis, c'est la journée internationale des câlins, figurez-vous. Et du coup, je demanderai à nos journalistes étrangers ce qu'ils pensent de la bise. C'est typiquement français. Et ça leur manque, visiblement.
C'était typiquement français. Et puis, des points météo tout au long de l'émission avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, on va avoir sérieusement froid demain matin avec de fortes gelées sur pas mal de régions. Ensuite, dans la journée, c'est le grand classique qu'on connaît depuis plusieurs jours, du soleil au sud, de la grisaille au nord.
On détaillera tout ça dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Il s'appelait Noé, il avait 15 ans, ce passionné de handball a succombé mercredi soir aux côtés de trois de ses copains dans un terrible accident de voiture dans le Jura. Et ce soir sur RTL, son entraîneur lui rend hommage.
Charlie, encore presque incrédule après la disparition de ce garçon, déterminé, sérieux et attachant.
Le souvenir que j'ai, c'est que c'était un super gamin, hyper intelligent, hyper respectueux, toujours à l'heure, toujours ponctuel et vraiment très sérieux dans l'application de l'équipe. Il était aimé de toute son équipe. Physiquement, j'ai un souvenir, c'est que en fait après les vacances d'été, il m'a dépassé au niveau taille. Athlétiquement, il était hyper physique. Alors les trois frères, ils sont les trois handballeurs au club actuellement et le papa, et ça fait des années qu'il les suit, du plus grand jusqu'au plus petit. Et puis bien sûr, le papa, on avait la de le voir tous les week-ends emmener ses enfants. Ouais. Alors on est très proche de la famille, très très proche. Et puis moi j'avais un lien fusionnel avec son frère aussi que j'ai entraîné pendant 5 ans. Les frères ils réalisent pas du tout parce que pour eux il est encore à l'internat entre guillemets et qu'il va rentrer ce soir.
L'incrédulité partagée d'une famille et de cette famille du club de Lons-le-Saunier, cet entraîneur du club au micro RTL de Bertrand Frachon. En Guadeloupe, même cause, mêmes effets, mais un cran a encore été franchi lors de nouvelles manifestations contre l'obligation faite aux soignants et aux pompiers de se faire vacciner contre le Covid.
Bonsoir Isabelle Hameau. Vous êtes la correspondante de RTL en Guadeloupe. Hier, un gendarme a été blessé par un tir à balles réelles au cours d'une journée très agitée à Pointe-à-Pitre.
On va faire usage de gaz pour vous évacuer. Allez, allez, avertissement. Ok, allez.
La situation a dérapé en début d'après-midi avec la dispersion de manifestants par usage de gaz lacrymogène. S'en sont suivis des jets de projectiles, cailloux et cocktails Molotov, mais aussi des tirs d'armes à feu sur les forces de l'ordre. Une scène filmée par les riverains. Olivia, résidente pointoise, en est témoin et ne cache pas son inquiétude.
On les entend menacer les policiers, on les entend tirer sur les policiers, donc On se demande où on est. On est laissé vraiment aux griffes de ces personnes. On voit les policiers arriver, on les voit repartir. Donc je ne comprends pas que le dispositif ne soit pas plus important que ça.
Un gendarme mobile de 32 ans a été sérieusement touché à la jambe, puis transféré aux urgences du CHU. Son pronostic vital n'était pas engagé. Dans la nuit, des bandes de jeunes, le visage dissimulé, ont pillé 3 magasins de téléphonie mobile. Plusieurs poubelles et véhicules ont été incendiés dans la rue principale de Pointe-à-Pitre.
Isabelle Hameau en Guadeloupe pour RTL.
Vaccination contestée donc en Guadeloupe, alors même que dès lundi, le pass vaccinal va entrer en vigueur. Le Conseil constitutionnel en a validé aujourd'hui l'essentiel des dispositions. Bars, restaurants, activités de loisirs, foires ou transports publics interrégionaux. Pour y accéder, les 16 ans et plus devront pouvoir justifier d'un statut vaccinal complet.
Alors on va essayer d'être très concret ce soir parce que la prise de parole hier soir de Jean Castex n'a pas forcément tout éclairci. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Alors premier cas, imaginons, je suis un ado, 16-17 ans, il me faut mes 3 doses.
Non, pour cette tranche d'âge, la dose de rappel n'est pas obligatoire, même si les adolescents peuvent se la faire administrer à partir de lundi. Conséquence, pour eux, 2 doses restent suffisantes pour obtenir leur passe vaccinal.
Autre cas de figure, je viens de recevoir ma première dose, il faut que j'attende la 3e pour aller au resto ?
Non, le gouvernement vous fait une fleur pour vous inciter à vous faire vacciner. Si vous vous faites injecter votre première dose, vous aurez bien un pass vaccinal, mais temporaire. Il sera assorti de 2 obligations. D'abord, présenter en plus du pass un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures pour aller par exemple au restaurant. Et puis pour conserver ce pass vaccinal, vous devrez prendre rendez-vous pour votre 2e dose. Vous aurez 1 mois pour la faire. Si vous ne la faites pas, votre pass sera annulé.
Alors, on va essayer de parler maintenant à beaucoup de vaccinés qui nous écoutent et qui sont sans doute dans ce cas. Sophie, il faut rappeler une échéance. À partir du 15 février, c'est dans 3 semaines, le délai entre la 2e et la 3e dose est réduit à 4 mois, c'est ça ?
Oui, attention, hein, si votre 2e dose a été faite avant la mi-octobre, eh bien le 15 février, vous n'aurez plus de passe vaccinal, il sera désactivé. Vous ne le récupérerez que si vous faites votre dose de rappel. Donc regardez bien de quand date votre 2e injection et prenez rendez-vous rapidement si vous voulez éviter les mauvaises surprises le 15 février.
Mode d'emploi du passe vaccinal avec Sophie Jousselin pour RTL.
En Autriche, là, la vaccination obligatoire a été adoptée hier par le Parlement. Bonsoir Léo Breuer-Potier.
Grüß Gott, bonsoir tout le monde.
Vous êtes le correspondant de RTL dans la région, ça c'est pour le bâton, 3 600 € d'amende à la clé, mais il y a aussi une carotte avec une loterie de grande ampleur destinée à convaincre les quelques 1,5 million d'adultes encore non vaccinés.
Oui, accrochez-vous bien, car votre ticket de loterie, Marion, c'est votre vaccination. Donc si vous êtes vacciné 3 fois, ça va faire 3 fois plus de chances de gagner à cette loterie. Combien de personnes vont-elles gagner ? Eh bien, le chancelier autrichien a répondu en conférence de presse. Tendez l'oreille.
Das heißt, jeder zehnte, jede zehnte.
Karl Nehammer affirme qu'une personne vaccinée sur 10 gagnera quelque chose. Et en jeu, il y a des coupons d'achat d'une valeur de 500 € à dépenser dans les restaurants et magasins autrichiens. L'État veut aussi récompenser les villes et les communes qui ont un fort taux de vaccination. Jusqu'à 90% de vaccinés dans votre commune, le maire pourra toucher 300 millions d'euros. Ça va coûter des sous. Au total, le pays est prêt à mettre 1,4 milliard d'euros sur la table pour financer sa loterie. Et si la carotte est généreuse, le bâton, lui, est prêt à tomber. 600 € d'amende à partir de février, 3 600 € d'amende à partir de mars si vous n'êtes pas complètement vacciné, à l'exception des femmes enceintes et des personnes pour lesquelles la vaccination n'est médicalement pas recommandée. La loi doit encore passer l'étape du Parlement des régions pour entrer en vigueur dès le 4 février.
Voilà, les vaccins en Autriche, c'est 3 fois plus de chances au tirage. Merci Léo Breuer-Potier.
Tiens, un mot d'une autre arme contre le Covid. La Haute Autorité de Santé a autorisé aujourd'hui le Paxlovid. C'est un médicament du laboratoire Pfizer. C'est vrai que ces médicaments débarquent, ils ont des noms totalement imprononçables. Pour qui, dans quelles conditions, on va tout vous expliquer avec la brigade RTL dans quelques minutes. Sachez en tout cas que c'est un vrai espoir pour les personnes fragiles. Votre journal se poursuit dans un instant sur RTL. Et de deux, deuxième condamnation pour l'ex-ministre de l'Intérieur, Claude Guéant.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier. Julien Cellier.
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal. Bonne soirée avec RTL. Déjà incarcéré, l'ancien premier flic de France, Claude Guéant, a été une nouvelle fois condamné aujourd'hui dans une autre affaire.
Oui, dans l'affaire des sondages de l'Élysée cette fois. Cindy Hubert, vous avez suivi le jugement pour RTL. Condamnation à 1 an de prison, dont 8 mois ferme avec mandat de dépôt pour favoritisme.
Oui, le tribunal a eu des mots très durs pour cet ancien commis de l'État. Claude Guéant a eu des agissements intolérables, d'autant plus qu'ils ont servi à enrichir l'entourage de Nicolas Sarkozy au détriment des finances publiques. Le jugement impitoyable dépeint un Claude Guéant qui persiste dans un comportement délinquant. La gravité de l'infraction, sa personnalité, le fait qu'il n'ait pas honoré le paiement de son amende dans une affaire précédente, tout cela a conduit la justice à écarter purement et simplement un aménagement de peine, une sévérité salué par l'avocat de l'association Anticor, Maître Carsanti.
On admet tout à fait que le voleur de bobylettes aille en prison. On n'admet pas que les plus hauts responsables de l'État qui ont commis des infractions lourdes de conséquences pour la probité publique, pour la représentation nationale, finalement subissent les foudres de la justice. Et bien la justice vient dire, elle est égale pour tous, que l'on soit misérable ou que l'on soit puissant.
Mais l'avocat de Claude Guéant annonce déjà qu'il va faire appel, ce qui suspend pour le moment toute exécution de peine. Il pourrait donc sortir de prison le 7 février prochain, date où la justice va trancher sa demande de remise en liberté.
Cindy Hubert, merci. Genève aujourd'hui et des échanges qui vont se poursuivre la semaine prochaine entre Russes et Américains, avec une base claire pour le secrétaire d'État, Anthony Blinken.
Si la Russie veut que le monde commence à la croire, eh bien la meilleure chose à faire est de retirer ses troupes et de s'engager dans la voie de la diplomatie. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
Bon, l'objectif, c'est d'éviter la guerre en Ukraine. Donc les Américains ont posé leurs conditions, le retrait des troupes russes à la frontière. Les Russes, eux, ont posé les leurs. Ils veulent enlever les bases de l'OTAN en Europe de l'Est. Tout cela ressemble, Julien Fautra, un dialogue impossible.
Oui, à une impasse. Exigence de part et d'autre jugées inacceptables. Les Russes posent trois conditions, mais trois conditions non négociables, présentées comme un ultimatum. Moscou promet les conséquences les plus graves si ces préoccupations sont ignorées. 1. Pas d'élargissement de l'OTAN. 2. Retrait des forces de l'OTAN des pays où l'organisation est installée. 3. Pas de présence militaire dans tous les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. En clair, démilitariser tous les pays voisins, l'Ukraine incluse, plus la Roumanie et la Bulgarie, donc plus seulement l'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe du Sud, et sans compromis, si toutes les conditions ne sont pas remplies. Vladimir Poutine parle de réponse militaro-technique, ce qui peut signifier beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, cette position russe, cette intransigeance, est intenable pour les Européens, il en va de leur sécurité, et pour les Américains, qui rappellent que l'Ukraine est un État souverain, tout État souverain a droit de choisir ses alliances, mais le Kremlin, lui, veut sanctuariser une sphère d'influence, celle de l'ancienne Union soviétique.
À la tension monde, décryptage de Julien Fautra pour RTL.
Les sports, et avant la bonne nouvelle, on va commencer par une mauvaise. Pour cause de Covid, les rugbymen de Toulouse ont vu leur match de demain contre Cardiff en Coupe d'Europe annulé.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec cette deuxième place du skieur français Johan Claret sur la vertigineuse descente de Kitzbühel en Autriche. À 41 ans, il devient le deuxième plus vieux skieur de l'histoire du ski à monter sur un podium de Coupe du Monde, juste devant en plus un autre français tout à l'heure, un Blaise Giesendanner.
Je me sens bien ici, je suis toujours heureux quand j'arrive à Kitzbühel. Il y a beaucoup de stress évidemment, il y a beaucoup de moments difficiles, mais je me retrouve toujours à l'aise quand je suis sur la piste. C'est une passion. Je pourrais faire ça encore pas mal d'années s'il n'y avait pas tout ce stress. J'adore aller m'entraîner. C'est peut-être pour ça que je suis encore performant. Ah, le programme, là, je vais bien profiter ce soir. Je vais boire une bière, c'est sûr, avec Blaise. On va prendre une bonne bière. Et puis demain, je vais profiter. Je vais me reposer. Je vais rien faire. Je pourrais faire un petit coup de vidéo et puis on sera prêt pour dimanche.
Voilà, le français Johan Claret qui descendra ensuite dimanche.
Et on précise aussi Lyon-Saint-Etienne ce soir. Le derby, 22e journée de Ligue 1, ce sera à vivre sur RTL. A tout à l'heure Marion, le temps pour demain Valérie.
Moins 6 degrés au réveil à Auch demain matin, moins 5 à Belfort, moins 3 à Toulouse. Dans la journée, fourchette de 2 à 14 degrés des Vosges à la Corse avec 4 à Nancy, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Brest, 13 à Marseille. Des températures donc à peu près stables et un ciel qui sera tout autant. Ce sera ensoleillé sur la moitié sud, plus nuageux au nord, surtout dans le nord-est, avec un peu de chance, les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Bretagne ou encore la Touraine peuvent espérer un petit peu de soleil passer la mi-journée.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, nous nous intéressons à cette nouvelle arme anti-Covid. Les médicaments, ils débarquent avec leur nom incompréhensible. Pour qui, quand, comment sont-ils efficaces? On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir à tous.
Alors tout d'abord, première livraison du Sotrovimab derrière ce nom barbare. Un espoir, notamment pour les 240 000 immunodéprimés du pays.
Oui, des patients au système immunitaire affaibli, soit par la maladie, soit par des traitements, qui ne peuvent pas être protégés par la vaccination et qui ont un risque sur 5 de mourir lorsqu'ils sont hospitalisés pour Covid. Ce nouveau traitement a plusieurs atouts. Il empêche le virus d'infecter de nouvelles cellules. Il élimine les cellules déjà infectées. Le risque de progression vers une forme grave de la maladie est réduit de 80%. Et surtout, il est très efficace contre tous les variants, y compris Omicron. Inconvénient tout de même, son administration est un peu contraignante. On l'injecte en une seule fois par voie intraveineuse, donc à l'hôpital. La France en a commandé 20 000 doses et 4 premiers patients l'ont déjà reçu.
L'autre médicament dont on va beaucoup parler, c'est le Paxlovid. Il sort des labos Pfizer. Il fonctionne comment? Il est destiné à qui?
C'est la pilule anti-Covid qui suscite en effet le plus d'enthousiasme. Là aussi destinée aux personnes à risque. Les très âgés, les immunodéprimés, mais aussi les plus de 65 ans qui souffrent par exemple de diabète ou d'hypertension ou d'obésité. Utilisation très simple, 3 comprimés à prendre par voie orale avec un verre d'eau 2 fois par jour durant 5 jours dès que possible après le diagnostic. Et au plus tard, dans les 5 jours qui suivent l'apparition des symptômes, cet antiviral réduit de 85% les hospitalisations et les décès. La HAS, la Haute Autorité de Santé, vient de donner son feu vert. Il pourra être prescrit par les médecins généralistes et il arrivera dans les pharmacies d'ici la fin du mois.
Il est donc attendu. La Brigade RTL avec Odile Pouget. Merci Odile. Petite pause et puis ensuite sur RTL, nos invités seront Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling. Les deux acteurs signent une tribune avec une centaine d'artistes. Ils appellent à l'union des candidatures à gauche et soutiennent la primaire populaire. Est-ce utopiste? On va leur demander.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h20, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et ce soir, tiens, nous nous penchons sur ce coup de pression en quelque sorte. 110 artistes appellent à l'union de la gauche et à soutenir la primaire populaire. Parmi ces artistes, des noms que vous connaissez, que le grand public connaît, Juliette Binoche, Yael Naïm ou encore nos deux invités, les acteurs Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
On rappelle à nos auditeurs que cette primaire, c'est la semaine prochaine. Plus de 325 000 citoyens inscrits. Objectif, désigner un candidat unique à gauche. Alors les inscrits vont choisir un nom parmi Mélenchon, Jadot, Taubira, Hidalgo et j'en passe. L'idée, c'est faire émerger un programme commun. Le bémol, et il est de taille, c'est que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, entre autres, ne veulent pas entendre parler d'alliance et ne comptent pas se plier aux résultats. Jean-Pierre Darroussin, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes affligé, vous êtes déçu, vous êtes en colère devant le spectacle de cette gauche qui est divisée en cette candidature?
Non, moi je suis plein d'espoir et en tous les cas je suis conquis par cette initiative qui me paraît être une sorte de bon sens et qui est une promesse de quelque chose de d'intéressant, puisque c'est une autre façon de concevoir le paradigme de l'élection, puisque ce sont des gens qui désignent des candidats qu'ils aimeraient voir se présenter. C'est pas qu'on les élit, c'est que ce sont des gens qu'on aimerait voir se présenter. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça ne va pas du tout à l'encontre de ceux qui sont déjà présentés, puisqu'ils sont même d'ailleurs sur les listes pour qu'on puisse les désigner en disant que oui, on est d'accord avec eux, mais avec un tel, on est un peu plus d'accord, ou avec un autre, on est un peu plus d'accord. C'est ça l'originalité de ce type d'élection. Et je soutiens complètement cette initiative, parce que d'abord, moi, je suis un rallié de la dernière heure, mais j'ai rencontré les gens qui ont lancé cette primaire populaire, et ce sont des jeunes qui, d'un seul coup, n'ont pas envie de se plier à cette sempiternelle façon, à ce rituel qui se reproduit régulièrement de gens qui sont désignés par des partis et qui recherchent la voix du peuple. Donc là, la voix du peuple, elle s'exprime. Donc allez-y.
C'est effectivement original, Charles Berling, cette primaire populaire. Vous croyez vraiment qu'elle peut fonctionner, qu'elle peut unir la gauche? Il y a beaucoup d'inscrits, hein, plus de 325 000, c'est bien plus que la primaire LR, mais on a la sensation que les candidats l'ignorent. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que son nom figure. C'est une machine à perdre, dit Yannick Jadot. Machine à perdre.
Non, la machine à perdre, c'est si Yannick Jadot dit ça, la machine à perdre, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire 7 candidats ou 8 à gauche, enfin peu importe, aucun programme commun, c'est la machine à perdre, c'est certain. On l'a vu la dernière fois, on va le voir encore cette fois. Donc, disons que quel que soit le résultat de cette primaire populaire, quel que soit le résultat de ce que ça va impliquer, du ralliement ou pas, je crois que c'est, comme le disait Jean-Pierre, c'est une façon qu'ont un certain nombre de gens, dont on fait partie, de dire arrêtons de se plaindre de la non-représentativité politique, essayons de changer un tout petit peu les façons de faire. Donc, de faire pression sur quand des gens de gauche comme nous, comme vous le dites, on est un peu affligé parce qu'on se dit on est sûr de perdre. Donc au moins faire pression pour pousser ces politiques à s'unir, à réfléchir ensemble, c'est à notre avis la seule solution. Et après, ce qu'on a voulu faire aussi, comme vous l'avez dit, c'est des artistes qui se manifestent, c'est dire n'oublions pas dans tout cet échiquier politique la culture. Parce qu'aujourd'hui, la politique a beaucoup à voir pour prendre des décisions super importantes vis-à-vis de la culture et vis-à-vis de l'art en général et de sa liberté en particulier. Donc ce sont des questions qui questionnent la démocratie et la liberté fondamentale des citoyens, de l'art et d'un certain nombre d'activités.
Charles Berling, vous dites 26%, vous dites on est sûr de perdre. La gauche aujourd'hui, dans le dernier sondage RTL, ça représente 26% des intentions de vote. À titre de comparaison, en 2012 au premier tour, le bloc de gauche, c'était 44%. Jean-Pierre Darroussin, est-ce que vous avez l'impression que les idées de gauche sont en train de disparaître quelque part du débat public? On a très peu parlé de lutte contre les inégalités, d'environnement, quelque part, dans cette campagne.
C'est un peu ça le problème, c'est que évidemment ça s'effiloche parce que on a réussi un petit peu à ringardiser et à dire puisque effectivement il y a eu des promesses peut-être non tenues, des choses comme ça, et qu'on a évolué dans une société qui a perdu confiance dans cette représentation. Mais justement, il est question de réenchanter, de remotiver, et c'est ça, c'est l'énergie, c'est cette dynamique qu'il faut créer, et c'est ça le sens de cette élection, de cette proposition de primaire populaire, c'est de redonner de la motivation, parce que sinon les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, on va voter pour mon candidat, il va faire 30%, puis au deuxième tour je vais voter blanc parce que ce vote blanc, c'est bien, on va savoir qu'il y a des gens qui votent blanc, c'est très bien, mais on préférerait quand même qu'il y ait des gens qui soient au gouvernement, ne serait-ce que même après pour les au niveau des députés, à la Chambre des députés, qui est-ce qui va représenter tous ces gens qui sont victimes de ces inégalités, qui est-ce qui va défendre les programmes écologiques, qui est-ce qui va être là à l'Assemblée pour soulever tous ces problèmes là Donc il faut quand même à un moment donné avoir une dynamique de ce socle commun de tous ces gens de gauche. Il faut qu'ils se rendre compte qu'il représente une force et qu'il y a une force à gauche qui continue d'exister.
Charles Berling, la défense de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, c'est de dire, on a lancé notre campagne il y a de longs mois, les écolos disent on a déjà organisé une primaire, c'est trop tard, et puis l'Union, ce sera ok, mais derrière moi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, notamment à ces deux favoris aujourd'hui dans les sondages?
J'ai envie de leur dire, il n'est absolument pas trop tard justement pour rejoindre la primaire populaire, qui d'ailleurs a fait des propositions. Vous parliez de programme, il y a des propositions très claires, c'est-à-dire des propositions sur lesquelles d'ailleurs en général, a priori, ils adhèrent. Donc il n'est jamais trop tard. Ce qui est sûr, c'est que là, si des artistes comme nous, ou si un certain nombre de jeunes, de gens, de citoyens se mobilisent, c'est bien parce que on sait d'avance que cette façon de procéder, avec des égos politiques qui s'affrontent et qui disent on ne veut pas discuter ensemble, j'ajoute là-dessus un mépris absolument innommable vis-à-vis de cette primaire populaire qu'on peut trouver absolument imparfaite. Oui, c'est vrai, mais qu'on ne doit pas mépriser à ce point comme ils le font. Donc il y a un problème fondamental. Donc je dis il n'est jamais trop tard, mais par contre, si ça continue comme ça, oui, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, en tout cas, pas pour aller dans le mur.
Merci Charles Berling, merci Jean-Pierre Darroussin d'avoir été ce soir nos invités sur RTL. Vous faites donc partie de ces 110 artistes qui appellent à l'union des candidatures de gauche et à soutenir cette primaire populaire qui va se tenir la semaine prochaine. Déjà 325 000 citoyens inscrits. Merci d'avoir été ce soir nos invités. RTL Soir va se poursuivre dans un instant. Il y aura les dessous de l'actu. Ce sera encore politique, les dessous de la réconciliation entre les ennemis d'hier. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez qui s'affichent désormais bons amis. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, là aussi c'est politique, on va jouer, chère Valérie. Oui, le jeu du président. Formidable jeu de société. Vous choisissez votre jeton, Macron, Mélenchon, Le Pen, et puis vous essayez d'arriver jusqu'à l'Elysée. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Avec Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, RTL 18h30.
Julien Cellier, RTL Soir.
Et Marion Calais vous rappelle maintenant les grands titres de l'actualité.
8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, la condamnation de Claude Guéant dans l'affaire des sondages de l'Élysée, déjà incarcéré dans un autre dossier, il fait appel. Les discussions Russie-États-Unis sur l'Ukraine, auprès de laquelle la Russie a pris position, Washington demande le retrait de ses troupes. Moscou s'inquiète du renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est. Et puis le monde du sport, bousculé par le Covid chez les handballeurs qui doivent affronter demain l'Islande à l'Euro. Deuxième cas, cette fois, c'est le sélectionneur Guillaume Gilles qui est touché.
Merci Marion. Le temps demain, Valérie, c'est froid.
Ouais, un grand classique. Des températures bien basses le matin, de moins 7 degrés à Aurillac à 6 degrés à Dunkerque. Une matinée bien grise la plupart du temps. Et puis le soleil va arriver rapidement sur la moitié sud. Ce sera beaucoup plus laborieux au nord avec des températures qui iront de 2 à 14 degrés au meilleur de la journée. 7 à Paris, à Rennes et à Modane.
Merci Valérie.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous des retrouvailles. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, la candidate LR s'est rendue aujourd'hui sur les terres de son ancien ennemi en Haute-Loire. Pour rappel, il y a 2 ans, elle avait quitté les Républicains à cause de la présidence Wauquiez, alors patron tout juste démissionnaire du parti, souvenez-vous.
J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur. Parce que le parti est cadenassé.
Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce déplacement. Alors c'est formidable la politique, parce que visiblement, ça y est, la brouille est oubliée. En tout cas, la réconciliation a été mise en scène.
Ah oui, soigneusement étudiée cette mise en scène même. Étape 1 du rabibochage, sous la neige, à 1000 mètres d'altitude ce matin, devant des dizaines de micros et caméras. Des sourires visibles même sous le masque, des rires bruyants. Laurent Wauquiez félicite Valérie Pécresse pour son fantastique début de campagne. En retour, elle vante la formidable transformation de la région. Bref, une réconciliation presque parfaite. Sauf lorsqu'on rappelle à Valérie Pécresse l'épisode que vous venez d'entendre en 2019.
Non. Après le départ de Laurent, ça n'avait rien à voir. Non, absolument pas. Vous avez déformé complètement mes propos.
Est-ce qu'on peut vous répondre ? Voilà, vous l'entendez un peu d'agacement, mais les deux nouveaux amis s'en vont dans la même voiture. Là aussi, la séquence a été préparée pour les caméras. Et la seconde étape est encore plus symbolique. Elle a lieu dans la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. Pour l'anecdote, même l'ancien ministre Brice Hortefeux a fait le déplacement pour assister au miracle de la réconciliation.
Mais Vincent, ils ont vraiment fait la paix ou c'est de l'image, c'est de la com'?
Alors, c'est d'abord pour l'image, me confie un proche de la candidate, mais pas seulement. Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ont d'ailleurs passé plus d'une heure ensemble en voiture aujourd'hui. Selon un proche, Laurent Wauquiez lui a redit qu'il sillonnerait la France pour rassembler les élus et qu'il était à sa totale disposition. La paix est donc bien réelle, mais fragile, car comme le résume un proche, ça va mieux, mais ils ne seront jamais vraiment amis.
Les dessous de l'opération, retrouvailles Pécresse-Wauquiez avec Vincent de Rosier en Haute-Loire pour RTL.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, place maintenant à Laissez-vous tenter, dernière, comme chaque soir, les bons conseils de la bande de LVT. On est avec Julia Molcou ce soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors vous nous proposez un jeu de société pour occuper les longs week-ends d'hiver. Alors c'est un jeu pas franchement comme les autres, et qui plus est en lien avec l'actualité.
Bon, cher Julien, chers amis auditeurs, je ne vous apprends rien si je vous dis que la course à l'Elysée est lancée et que les présidentielles se tiendront dans 3 mois.
Jusque-là, on suit.
Bon, mais est-ce que vous avez déjà imaginé, vous, vous lancer dans cette course effrénée?
Non, non, non. Moi, je suis beaucoup trop modeste. Je ne me vois pas du tout président de la République.
Bon, eh bien, très bien. Vous êtes très modeste, mais vous allez quand même pouvoir jouer. Et vous allez pouvoir vous exercer à cette campagne électorale avec le jeu du président créé par Olivier Lejeune. Alors voilà, vous avez un plateau qui représente la France. Et au début de la partie, chaque joueur tire au sort, ou choisit, bien sûr, hein, selon ses affinités, l'un des 6 partis dont il va défendre les couleurs.
D'accord.
Jusque-là, ça va. Puis ensuite vient l'heure de la conquête des voix. Soit par les dés, soit par les cartes électorales. Et ainsi, vous allez pouvoir placer vos jetons sur les départements. Et en fonction des départements, il n'y a pas le même nombre de voix à récolter.
Okay ?
Pour gagner des voix, vous avez des petites questions culture marrantes qui peuvent être, par exemple, dans sa chanson « Si j'étais président », Gérard Lenormand énonce la composition de son futur gouvernement. Bon, bah, à quels ministères sont nommés, par exemple, Tarzan et Bécassine ?
Moi, je ne suis pas très Gérard Lenormand, je vous l'avoue.
Bon, bah alors, vous l'avez pas, mais Bécassine, c'était quand même à l'industrie et Tarzan à l'écologie.
Donc là, j'aurais perdu des voix.
Non, vous les auriez juste pas gagnées.
D'accord. Okay.
Pour perdre des voix, eh ben voilà, il y a des pièges et des défis. Alors, par exemple, on peut vous demander de raconter une histoire drôle qui met en scène un ou une politicienne.
Ouais.
Ou alors de trouver les spécialités qui correspondent aux régions. Par exemple, quelle est la spécialité de Besançon?
L'horlogerie.
Bravo. Et celle de Sarlat?
Pomme de terre bien grasse dans la graisse de canard.
Bah là, vous auriez gagné des voix. Mais attention à ne pas piocher des cartes qui vous font reculer. Comme celle qui, par exemple, va vous faire perdre 300 000 électeurs parce qu'en plein confinement, on vous a surpris dans un restaurant clandestin.
Ah ouais,
ça, par exemple, c'est pas bon.
Et parfois, on a une carte qui peut nous faire un bond de géant, c'est ça?
Alors là, si vous avez la chance de tirer la carte, vous embrassez vos enfants et caressez votre chien devant les caméras de télévision et les appareils photos de Paris Match, c'est pas compliqué, c'est le bingo. Franchement, c'est plus vrai que nature, c'est drôle et c'est intelligent. On apprend plein de trucs. Voilà, ça ne peut qu'égayer vos soirées sans boîte de nuit ni verre au bar. Ça s'appelle le jeu du président et ça vient de sortir chez Lancet.
Et le monsieur qui est derrière ce jeu, Olivier Lejeune, en fait, il avait déjà sorti un jeu comme ça, c'est ça?
Exactement, c'était en 75, une première version qui était sortie et qui avait connu un immense succès. Donc on lui souhaite la même réussite avec son jeu du président version 2022.
Le jeu du président pour se lancer dans la campagne, si vous avez envie peut-être de rêver d'un fauteuil à l'Elysée, n'hésitez pas, c'était le bon conseil de Julia Molcou ce soir, ce jeu de société. Merci Julia.
Merci.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, petite pause et ensuite on va refaire nos régions dans RTL Soir avec Marion, avec les correspondants près de chez vous de RTL. 20 minutes curieuses, originales, vous en avez l'habitude chaque vendredi avec une restauratrice aujourd'hui pleine d'idées en Alsace, des moines qui agacent en Haute-Vienne, un couscous marseillais et un bourguignon exilé en Bulgarie. À tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.